Lizzie présente « Détruire tous les monstres » de Grady Hendrix, lu par Gaëlle Savary. Chapitre 1. Vrai comme l'acier. Assise au sous-sol, penchée sur sa guitare, Chris s'escrimait à jouer le début d'Iron Man de Black Sabbath. Sa mère l'avait inscrite à des cours de guitare avec un type que son père connaissait de l'usine. Mais au bout de 6 semaines à répéter « Twinkle, twinkle, little star » sur une acoustique J.C. Penney, Chris avait eu envie de hurler. Alors, tandis qu'elle était censée être chez M. McNutt, elle s'était cachée dans le parc, avait empoché les $50 des 2 leçons qu'elle avait manquées, les avait combinées avec l'intégralité de ses économies et s'était acheté une Fender Music Master toute rayée et un ampli Radio Shack tout défoncé chez Goldie Pawn pour $160. Puis elle avait raconté à sa mère que McNutt avait essayé de la mater pendant qu'elle était en train de faire pipi et désormais, au lieu de prendre des cours, elle se recroquevillait dans le sous-sol glacial et se cassait les dents à tenter des power chords. Ses poignets étaient osseux et sans force. Les cordes de mi, de si et de sol lui faisaient saigner le bout des doigts. La Music Master lui faisait mal aux côtes quand elle se penchait dessus. Elle agrippa le manche de la guitare et appuya son index meurtri sur le la, son annulaire sur le ré, son auriculaire sur le sol, gratta les cordes avec son médiator et soudain, son ampli cracha le même son que celui de Tony Yomi. L'accord que 100 000 personnes avaient entendu à Philly retentissait là, au sous-sol, avec elle. Elle recommença. Cet accord était la seule chose lumineuse dans le sous-sol miteux, avec son unique ampoule de 40 watts et ses fenêtres sales. Si Chris pouvait en jouer suffisamment, dans le bon ordre, sans s'arrêter, elle pourrait tout neutraliser. La neige sale qui ne fondait jamais, les placards pleins de vieilles fripes, les salles de classe surchauffées d'Independence High, les sermons abrutissants sur le Congrès continental, les bonnes manières et les dangers des mauvaises fréquentations. À quoi égale X et comment déduire Y, la 3e personne du pluriel de Kantar et la symbolique du gant de baseball de Holden Caulfield, la symbolique de la baleine et la symbolique du feu vert et la symbolique de tout ce qui est au monde parce que, visiblement, rien n'est ce dont il a l'air et tout est un piège. C'était trop dur. Compter les frettes, apprendre l'ordre des cordes, essayer de se rappeler quel doigt allait dessus et dans quel ordre, passer de son manuel au manche entre ses mains, et il fallait 1 heure pour parvenir à jouer tous les accords. Joan Jett ne regardait pas ses doigts en jouant « Do you wanna touch me? Oh yeah !» Tony Yomi regardait ses mains, oui, mais elles se déplaçaient si vite qu'elles étaient liquides, rien à voir avec les mouvements laborieux de Chris. Sa peau la démangeait, son visage grimaçait. Ça lui donnait envie d'exploser sa guitare en 1000 morceaux. Le sous-sol était froid comme l'intérieur d'un frigo. Sa respiration faisait de la vapeur. Ses mains étaient contractées comme des pinces. Le froid irradiait du sol en béton et changeait le sang de ses pieds en neige fondue. Le bas de son dos était bourré de sable. Elle n'y arriverait pas. De l'eau gargouillait dans les tuyaux car sa mère faisait la vaisselle à l'étage. Et la voix de son père filtrait à travers le plancher, récitant une interminable litanie de plaintes. Des bruits sourds et furieux faisaient tomber de la poussière du plafond chaque fois que ses frères roulaient du canapé, se bourrant de coups pour savoir qui aurait le dernier mot sur le choix du programme télé. Dans la cuisine, son père gueula « Me forcez pas à venir vous voir !» La maison était une grosse montagne noire qui pesait sur Chris, lui enfonçait la tête dans la crasse. Elle plaça ses doigts sur la 2e case, gratta, et pendant que la corde vibrait encore, avant d'avoir le temps de penser, elle glissa sa main à la 5e case, plaqua 2 fois un accord percutant, passa sans transition à la 7e, gratta 2 fois et ne s'arrêta pas. Son poignet lui faisait mal, mais elle le força jusqu'à la 10e case, puis la 12e, se hâtant pour ne pas perdre le rythme du riff qu'elle entendait dans sa tête, celui qu'elle avait écouté encore et encore sur le 2e album de Sabbath. Ce riff qu'elle se repassait mentalement lorsqu'elle se rendait à pied chez McNutt en cours d'algèbre, dans son lit la nuit. Le riff qui disait qu'il la sous-estimait tous. Il ne savait pas ce qu'elle avait en elle. Il ne savait pas qu'elle avait le pouvoir de les détruire. Et tout à coup, l'espace d'un instant, Iron Man fut dans le sous-sol. Elle avait joué pour un public inexistant, mais ça avait sonné exactement comme sur l'album. La musique vibrait dans chaque atome de son être. On aurait pu la découper, l'examiner au microscope. Et Chris Pulaski aurait été Iron Man tout entière, jusqu'à son ADN. Son poignet gauche l'élançait. Les extrémités de ses doigts étaient à vif. Elle avait mal au dos. Les pointes de ses cheveux étaient congelées. Sa mère ne souriait jamais. Son père fouillait sa chambre une fois par semaine. Son grand frère disait qu'il allait abandonner la fac pour rentrer dans l'armée. Son petit frère lui volait ses deux sous quand elle oubliait de fermer sa porte à clé. C'était trop dur. Et tout le monde allait se moquer d'elle. Mais ça, elle pouvait y arriver. 34 ans plus tard. Appelant.
Vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème.
Kiss.
Tu parles comme un hippie, Chester.
Appelant.
Je dis les choses telles que je les vois. Vous dormez, les gars. Les Texans qui vous possèdent vous dictent ce que vous jouez. Pourquoi vous ne faites pas de la vraie musique qui parle de ce qui se passe dans le monde ?
Carlos.
On aime ce qu'on joue, Chester. Si ça te plaît pas, achète-toi une radio satellite.
Appelant.
Je vous défie de jouer du Nervosa, du Sepultura ou du Torture Squad. Vous êtes trop pour jouer du Rage Against the Machine.
Carlos.
Quel temps il fait dans le sous-sol de ta mère, le métalleux ?
96.1 ZZO. Les matinées de Kiss et Carlos, 10 mai 2019. Chapitre 2. Bienvenue en enfer. Debout derrière le guichet du Best Western de l'US-22, vêtu d'un pantalon bleu marine et d'un gilet, Chris vit un homme nu passer par les portes coulissantes, son pénis se balançant de gauche à droite. En dépit de la taie d'oreiller qu'il s'était mis sur la tête, elle savait exactement de qui il s'agissait. « Monsieur Morel, » dit-elle, « nous allons devoir vous facturer pour avoir découpé des trous dans cette taie d'oreiller. »«
Je t'emmerde, poufiasse. »«
Ok, j'appelle la police. » Elle décrocha le téléphone.
« Je ne suis pas Josh Morel, » dit Josh Morel.
Chris composa de mémoire le numéro de la ligne directe du commissariat. Josh Morel se pencha par-dessus le guichet et interrompit la communication en plaquant la main sur le commutateur. C'est là que Chris se rendit compte qu'il était 3 heures du matin et qu'elle était l'unique réceptionniste de service dans un hôtel à moitié vide au milieu d'un parking quasi désert avec un homme nu à la tête recouverte d'une taie d'oreiller. Si elle n'avait pas été une femme, ça aurait été comique. « Nous avons des caméras dans le hall, monsieur Morel, » fit Chris, d'une voix qui devenait de plus en plus frêle alors même qu'elle tentait de s'exprimer avec fermeté.
« Je ne suis pas Josh Morel, » répéta Josh Morel.
Il se tenait tellement près de Chris qu'elle sentait son odeur de déodorant, Old Spice et de bière. Elle voyait ses yeux briller par les deux trous dans la taie d'oreiller. Elle voyait le tissu qui entrait et sortait bien trop vite de sa bouche. Sachant que le moindre mouvement pouvait s'avérer dangereux, elle s'immobilisa. Josh Morel fit 2 pas en arrière et se libéra d'un jet massif d'urine, faisant pivoter ses hanches pour bien s'assurer d'asperger toute la façade du guichet. L'odeur fétide d'ammoniaque s'insinua dans les narines de Chris. Le jet produisit un crépitement sourd contre le bois et plus aigu sur le carrelage. Dans le temps, Chris Pulaski avait asservi des salles entières. Dans le temps, elle entrait dans des bâtiments inconnus. Dans des états lointains où les seules personnes qui connaissaient son nom se trouvaient sur scène avec elle. Entourée de foules qui la détestaient. À Eugene, à Bangor, à Marietta, à Buchanan. Elle accordait calmement sa guitare, plantée devant des poivrots surexcités qui tiraient des coups de feu sur le van du groupe, qui glissaient sous les essuie-glaces des mots disant « Chopez le sida, gros pédé de métalleux !» qui avait jeté un soir sur la scène une couche dégoulinante de merde. Qui démarrait des bastons parce que ça les démangeait de cogner sans merci quiconque venait d'un bled situé à plus de 80 bandes de chez eux.